l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vidère.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vidère, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi de 12h50 à 13h30 sur France Culture vous propose de mieux comprendre la vie politique, ses institutions, ses lieux, ses métiers, ses rituels aussi. Alors ces rituels justement, eh bien voici un qui est devenu central dans notre vie politique, un rituel qui semblait jusque-là réservé à quelques démocraties, au premier rang desquelles les États-Unis, mais un rituel que la France s'est approprié au point que plus un jour ne passe sans qu'il en soit question. Ce rituel, vous l'avez deviné, c'est celui des primaires, ces fameux scrutins organisés au sein d'un même camp pour sélectionner celui ou celle qui représentera celui-ci à l'élection présidentielle. Alors, puisque nous sommes à l'orée d'une année où cette question des primaires va polariser le débat politique, pour ne pas dire l'obséder, à droite parce que le match est lancé et qu'on ne connaîtra le résultat que le 27 novembre prochain, à gauche parce que certains souhaiteraient le relancer, ce match, auquel François Hollande souhaite se soustraire, eh bien pour cela, il nous a semblé nécessaire, mon cher Vincent, de nous interroger sur les effets et l'impact de ces primaires sur notre vie politique.
Les primaires, Thomas, voilà le nouveau sésame de notre vie politique. Qualifiées d'avancées démocratiques avec un impact sur la mobilisation des électeurs qui se sentent plus investis dans le système politique, porteuses de l'espoir de renouvellement d'une classe politique sclérosée, on semble ne trouver que des qualités aux élections primaires qui permettent de choisir les candidats à la candidature pour l'élection présidentielle. Après la gauche qui avait lancé le système, d'abord en 2006 avec des primaires réservées aux adhérents du PS, puis ouvertes à tous et sympathisants de gauche en 2011, c'est la droite qui sacrifie à ce nouveau totem. Force est de reconnaître que les primaires ont apporté un vent nouveau dans notre système politique, plus dynamique, plus inclusif des citoyens. En 2011 à gauche, elles ont été l'une des clés de la victoire de François Hollande. Mais les grincheux diront aussi qu'elles ont renforcé les travers du système. Débat d'idées faibles, personnalisation à outrance du pouvoir, hystérie médiatique, campagne permanente des prétendants à l'investiture et un renouvellement jusque-là limité puisqu'au PS, on ne peut pas dire que ce soit le plus neuf des candidats qui l'ait emporté. Ceci étant, les primaires semblent inéluctablement appelées à devenir une étape incontournable du parcours jonché d'épines de l'élection présidentielle, du moins tant que le système institutionnel sera celui de la Ve République. C'est pourquoi les primaires des Républicains seront pour l'atelier du pouvoir l'occasion de se pencher sur les idées qui circulent à droite en ce moment et sur leur évolution. Nous organiserons donc chaque mois, autour d'un candidat à la primaire des LR ou l'un de ses proches, une émission consacrée à la conception de la droite sur l'un de ses thèmes traditionnels, la liberté, le capitalisme, l'État, le monde rural ou encore la famille. Mais d'ici là, et pour s'en tenir à l'émission d'aujourd'hui, comment penser le rôle des primaires et leur rapport à notre système politique ? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur leur organisation ? Leurs effets positifs ou leurs effets pervers ? Voici quelques-unes des questions que nous posons aujourd'hui à nos invités dans cet atelier du pouvoir consacré aux conséquences des primaires sur la vie politique française.
Et pour discuter de tout cela aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Bonjour.
Bonjour.
Un laboratoire d'idées, comme on dit, de centre-gauche qui a beaucoup milité pour l'organisation de primaires en vue de l'élection présidentielle de 2012, notamment autour d'Olivier Ferrand, son fondateur aujourd'hui décédé, et d'Arnaud Montebourg. À vos côtés, Gilles Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des plus proches conseillers d'Alain Juppé. Vous avez été son directeur de campagne, de cabinet, pardon, et vous êtes aujourd'hui son directeur de campagne, justement, pour la primaire des Républicains qui aura lieu au mois de novembre. Et puis enfin, ce sont des primaires mexicaines que nous vous parlerons aujourd'hui dans notre séquence internationale. Rendez-vous pour cela dans une vingtaine de minutes avec Hélène Combes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste des mouvements sociaux et de la vie politique en Amérique latine.
si nous n'étions pas en mesure de trouver un système qui permette à l'opposition de choisir un candidat unique avant le premier tour des élections présidentielles, nous risquerions fort de les perdre, parce que le candidat socialiste, lui, étant assuré de figurer au second tour, peut dès le premier tour tenir un discours de rassemblement. Tandis que les différents candidats de l'opposition sont entraînés dans une compétition où ils doivent se distinguer, donc se différencier, et les petites plaies qui à cette occasion sont ouvertes n'ont pas le temps de se cicatriser. Le système envisagé est tel que cette désignation aurait lieu 13 semaines, c'est-à-dire un peu plus de 4 mois, avant le premier tour des élections présidentielles, de façon à laisser le temps à ce candidat de se faire connaître et de rassembler la totalité de l'électorat. Ce qui est contraire à la philosophie gaulliste de l'élection présidentielle, c'est de voir les partis choisir les candidats. C'est effectivement aux Français à choisir les candidats, et donc notre démarche se rapproche beaucoup plus de la pensée du fondateur de la Ve République que ce qui se passe actuellement. Puisque nous disons, de même que De Gaulle avait dit « c'est vous qui choisirez le président de la République », nous disons aux électeurs « c'est vous qui choisirez le candidat ».
Alors Charles Pasqua, qui était sénateur RPR des Hauts-de-Seine, qui souhaitait l'organisation de primaires, c'était en 1989, il y a 26 ans aujourd'hui. Gilles Boyer, puisque Charles Pasqua appartient à votre famille politique, finalement, c'est une idée de droite, la primaire, c'est une idée fondamentalement gaulliste ?
Charles Pasqua parle d'or, en l'occurrence, j'ai rien à retirer à ce qu'il vient de dire 25 ans après. C'est peut-être une idée de droite, et peu importe, je constate que les premiers qui l'ont fait, c'est la gauche. Il faut les en féliciter, parce que le processus qui a été beaucoup décrié par la droite parlementaire à l'époque a remporté un franc succès, un succès médiatique, un succès de mobilisation et un succès politique. Donc il n'est pas interdit de copier ce que la gauche fait de bien. Ça n'arrive pas tous les jours, à mes yeux. Raison de plus pour le faire, et en l'occurrence, c'est vrai que la réussite du processus socialiste, le succès à l'élection présidentielle qui en a découlé, nous a invités à le copier sur certains points et sur l'essentiel des points, pour tout dire, puisqu'il n'est pas interdit de copier ce qui a marché.
Thierry Pech, directeur général de Terra Nova. Pourquoi finalement la droite a mis tant de temps entre le moment où Charles Pasqua prônait les primaires et puis aujourd'hui à les organiser ? Pourquoi c'est la gauche qui a commencé ?
D'abord, la droite a une culture du chef qui est connue dans son histoire et qui la rendait assez peu disposée à organiser ce genre de manifestation collective, parce que c'est une grande manifestation collective, une primaire d'abord. Bon. Ensuite, parce que la primaire, elle est née d'un problème, enfin d'un double problème. Le premier problème, c'était comment trancher une querelle de leadership dans une grande famille politique comme le Parti Socialiste. Il faut bien voir que depuis le retrait de la vie politique de Jospin en 2002, le Parti Socialiste a été le lieu d'une guerre des chefs continuelle, et qui a conduit d'ailleurs en partie à la défaite de 2007, mais qui pouvait très bien conduire à une deuxième défaite en 2012. La deuxième difficulté qu'il faut résoudre dans ce genre de situation, c'est qu'il faut trouver les ressources d'une adaptation à des institutions qui sont très personnalisées, très personnalisantes. Ça, c'était pas dans la culture de la gauche, si vous voulez. La gauche n'avait pas cette culture du chef qui a pu empêcher la droite d'envisager favorablement ce type de procédure, mais elle avait un autre problème avec les institutions de la Ve République. Et accepter les primaires, c'était accepter la personnalisation liée à l'élection présidentielle.
Gilles Boyer, quand vous entendez Thierry Pech parler de l'organisation des primaires à gauche, est-ce qu'il y a des éléments dans cette organisation de la primaire de 2011, surtout la primaire qui a été ouverte à tous les sympathisants de la gauche, des éléments qui vous ont particulièrement inspiré ? Vous vous êtes dit, ah ça, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse à droite, et à l'inverse, peut-être des choses où vous vous êtes dit, bon ça, on le fera un peu différemment.
Je crois que ce dont on peut s'inspirer, c'est évidemment les conditions qui ont été créées pour que la mobilisation la plus large possible se produise. Et ça, c'était pas gagné. Hein. Les 10 000 bureaux de vote partout en France, la capacité pour tout le monde d'aller voter, moyennant une participation financière modique.
Ce sera combien finalement ?
Ah, ce sera 2 euros.
Un euro de plus que la gauche, je crois.
Oui, c'est l'inflation.
Mais il y a plus d'argent à droite.
C'est l'inflation. Et puis l'ouverture du corps électoral à tous ceux qui le souhaitent, moyennant l'adhésion à une charte des valeurs minimales, a permis de créer un élan. Et à l'époque, nous, à droite et au centre, étions nombreux à nous plaindre que la gauche monopolisait les médias durant toute la phase primaire. Et ça a créé pour le candidat vainqueur un élan que nous n'avons pas pu rattraper.
Alors Thierry Pech, vous avez écrit avec la Fondation Terra Nova, et si c'était à refaire, donc une sorte de bilan critique un petit peu des primaires en essayant de pointer ce qui a marché et ce qu'il faudrait améliorer.
toujours dans la même idée, pour donner des conseils à vos adversaires de la droite pour leur primaire, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire que peut-être le Parti Socialiste n'a pas fait en 2011?
En 2011, encore une fois, on devait trancher un problème de leadership. Et ça s'est très bien passé.
La droite aussi, non?
Aujourd'hui, oui. Et c'est pour ça qu'ils copient. C'est parce qu'ils ont un problème de leadership. C'est particulièrement adapté à ces situations. Mais il y a quelque chose qui est apparu depuis 2012, fortement, c'est la tripartition du paysage politique. C'est-à-dire qu'il y a un troisième acteur sur la scène, qui est le Front National, qui pèse très lourd. Et donc, on ne peut plus considérer que le premier tour de la présidentielle, c'est la primaire non dite, si vous voulez, de chacun des deux camps. En réalité, cette fois-ci, le premier tour de la présidentielle risque d'être la primaire républicaine des deux grands partis de gouvernement. Et dans ce cas-là, il faut organiser non seulement des primaires dans sa famille politique, mais des primaires de coalition. C'est-à-dire qu'il faut réunir les autres partis de son camp. En l'occurrence, les Républicains vont devoir essayer d'aller chercher, d'aller impliquer dans la primaire les centristes. Et ça, ça change beaucoup de choses. Parce que d'abord, ça met plus de monde sur la ligne de départ. Ensuite, parce que au lendemain des primaires, il y a le débat sur les investitures aux législatives, et ce débat, il est nécessairement à l'ombre du résultat des primaires. Vous voyez, ça change plein de choses. Et si on veut éviter que les clivages soient trop profonds, si on veut vraiment que le jeu soit accueillant pour celui qui entre et qui est plutôt l'outsider, là, en l'occurrence, les centristes, c'est la partie la plus faible du tandem, eh bien, il faut peut-être même revisiter le mode de scrutin. C'est ce qu'on proposait dans le rapport que vous avez signalé. On proposait non pas de singer la présidentielle dans la primaire avec un scrutin uninominal à deux tours.
Ce qui a été fait donc en 2011.
Ce qui a été fait.
Ce qui va être fait en novembre.
Ce qui va être fait
par la droite.
Mais de choisir un mode de scrutin innovant à un seul tour, qui est le jugement majoritaire. On dit aux sympathisants, comme vous êtes tous de la même famille de sensibilité, on vous demande pas de mettre 0 à 5 candidats et 1 à un seul candidat, mais on va vous demander de noter tous les candidats. Et c'est celui qui aura la meilleure moyenne qui l'emportera.
Ça ressemble au système en Irlande, le système électoral irlandais un petit peu.
En fait, le jugement majoritaire, c'est un système qui a été inventé par Michel Balinski, qui est un mathématicien à l'origine, avec qui a été d'ailleurs signé le rapport que vous avez cité tout à l'heure, et qui est inspiré plutôt des notations des concours de patinage. Mais bon.
Et Gilles Boyer, une réaction à ce que vient de dire Thierry Pech.
Je trouve ça intellectuellement très stimulant, ce que dit Thierry Pech, et je ne suis pas certain que ça défavoriserait Alain Juppé, en l'occurrence dans le processus qui nous concerne. Néanmoins, je suis très vigilant aussi sur un point, c'est que les primaires constituent une innovation majeure à droite. On n'a jamais fait ça. Voilà. Et donc, l'idée d'introduire, en plus de cette innovation, c'est-à-dire que le peuple de droite et du centre se mobilise pour un scrutin de ce type, introduire une innovation majeure en termes de mode de scrutin serait risqué, difficilement explicable, je pense, par nous, à nos électeurs. Donc l'idée de garder, c'est ce que nous avons décidé de faire, d'ailleurs, le mode de scrutin traditionnel en France, quoi qu'on en pense. Le scrutin majoritaire à deux tours me semble à ce stade plus prudent, ce qui n'interdit pas une évolution future pour nos primaires. Mais je suis certain que Thierry Pech le proposera au Parti Socialiste très bientôt.
Alors justement, Gilles Boyer, vous êtes le directeur de campagne d'Alain Juppé, un des candidats déclarés à la primaire.
Oui.
La question que se posent peut-être nos auditeurs, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette primaire? Bien sûr, on parle des positionnements des uns des autres, mais je parle purement en termes d'organisation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui à 8 mois de l'organisation de cette primaire? Est-ce qu'on est très avancé ou est-ce qu'on tâtonne encore un peu?
Alors un peu plus, 10 mois, on n'a pas beaucoup de temps, donc laissez-nous les 2 mois supplémentaires si vous voulez bien. Les conditions d'organisation des primaires sont maintenant posées sur le papier. La haute autorité indépendante qui est chargée de les organiser est constituée. Elle est dotée des moyens financiers de son indépendance et elle est assistée d'un comité d'organisation qui est présidé par Thierry Soler, député de Boulogne-Billancourt. Et
proche de Bruno Le Maire?
Oui, mais qui est avant tout président du comité d'organisation de la primaire et qui jouit de la confiance générale et qui est assisté dans son travail par les représentants des principaux candidats déclaré ou à venir. Cette haute autorité, ce comité d'organisation, ont posé les règles du scrutin. Un vote papier sur 10 337 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. C'est beaucoup, 10 000 bureaux de vote, pour 4 millions d'électeurs potentiels.
Est-ce que vous avez évalué combien ça va coûter ?
Oui, enfin, on peut aussi se demander combien ça va rapporter. Donc, il y a des coûts, évidemment, les coûts de location de salles, des bureaux de vote qui ne nous seront pas prêtés gratuitement, les coûts d'organisation, l'impression des bulletins, etc. Bien sûr, ça a un coût, on peut l'estimer, je ne sais pas, 4, 5, 6 millions d'euros. Moi, je ne suis pas chargé de l'organisation de ça, mais à côté, il y aura des recettes, c'est-à-dire les contributions des électeurs. Et à ces électeurs, les conditions demandées pour venir voter seront minimales. Une participation modique de 2 euros par tour de scrutin, je vous l'ai rappelé. Il faut donc être inscrit sur les listes électorales générales. Il n'y a aucune une démarche particulière à faire. Et le jour venu, il faudra signer un papier qui dit qu'on s'engage, pour l'alternance et on s'engage pour les valeurs républicaines de la droite et du centre, ce qui est une formule assez générique qui devrait permettre, je crois, une participation assez large. Donc les conditions pour voter sont très peu nombreuses et on va essayer d'organiser les choses pour que les lieux de vote soient le mieux répartis possible là, sur le territoire.
Ne nous faites pas de langue de bois, il y a un petit enjeu là-dessus quand même, parce que vous savez qu'en fonction du nombre de bureaux de vote, de leur répartition, ça peut avantager tel ou tel candidat. C'est aussi ça le but du comité d'organisation de la primaire.
Le critère qui a été retenu, c'est pour moi qui l'ai choisi, le critère qui a été retenu, c'est de prendre en compte le nombre de voix obtenues au premier tour de la présidentielle de 2012 par les candidats de la droite républicaine, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et du centre, pardon, et François Bayrou et Nicolas Dupont-Aignan, et de pondérer la présence des bureaux dans les endroits où l'électorat de la droite et du centre est supposé être le plus nombreux, de manière à ce qu'il y ait plus de bureaux là où il y a plus de votants.
Ça vous avantage plutôt.
Ce n'est pas totalement absurde. Je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'on prend le centre en considération.
Oui, on prend le centre en considération. D'ailleurs, vous avez parlé des primaires des Républicains. Ce ne sont pas les primaires des Républicains. Elles ont été officiellement baptisées les primaires de l'alternance, primaires de la droite et du centre. Donc, on va bien au-delà du champ du parti.
C'est la question qu'on a envie de vous poser, Gilles Boyer. Enfin, je vous y répondrai après, peut-être. Mais oui. Est-ce que vraiment vous invitez les centristes à participer à cette primaire? Et qu'est-ce que vous allez faire pour les inciter à le faire? Parce que moi, je serai UDI aujourd'hui. Je me dirai, je vois ce que j'ai à perdre. Je vois pas forcément ce que j'ai à gagner. Mais on va peut-être y revenir. Ce que je voudrais sur le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'une primaire, c'est une réussite, c'est une prouesse logistique. Il faut bien voir qu'en 2011, ça a été très compliqué d'organiser un scrutin irréprochable à cette échelle-là. Il faut bien voir que près de 3 millions d'électeurs se sont déplacés au deuxième tour. C'est beaucoup. D'ailleurs, ça va servir de toise à la primaire des Républicains en novembre prochain. Et ça rapporte, et ça rapporte pas simplement parce qu'il y a des recettes financières, ça rapporte parce que ça mobilise les effectifs militants. Les militants socialistes sont entrés la tête un peu basse dans la primaire. Ils en sont sortis la tête haute. Ils sont entrés la tête un peu basse parce qu'ils se sont dit « Eh bien, le parti ne peut plus désigner le candidat. » C'était une perte. Mais ils en sont sortis la tête haute parce qu'ils étaient fiers d'avoir réussi cette prouesse logistique, d'avoir fait quelque chose de moderne, d'avoir été les premiers et d'avoir mis leur candidat dans la meilleure situation pour l'emporter. Mais si vous voulez bien, je voudrais revenir à ma question à Gilles Boyer. Qu'est-ce que vous allez faire pour inciter les centristes à entrer dans cette compétition? Et notamment, est-ce que vous allez vous engager à faire des résultats de la primaire une toise pour la répartition des investitures au lendemain de cette primaire?
Il y a trois questions dans votre question. La première question, c'est de savoir si l'appareil de l'UDI décide de participer à la primaire. Ensuite, de savoir si l'UDI présente un candidat à la primaire. Et enfin, si l'UDI autorise ou incite ses sympathisants à venir voter à la primaire.
Bon, et comment vous faites les investitures après?
C'est trois questions référentes. Et la quatrième, c'est la question des investitures qui viendra après. J'ai un peu de mal à me projeter, mais on va en parler si vous voulez. Donc l'UDI tient son congrès le 20 mars et doit prendre la décision de savoir si elle participe à la primaire, soit en présentant un candidat, c'est optionnel, soit en n'en présentant pas.
En en présentant deux.
Oui, ou trois, ou quatre, très bien. Donc ça, c'est une question qui doit être tranchée à l'intérieur de l'UDI. Mon point de vue, c'est qu'évidemment, la participation de l'UDI au processus de la primaire renforce ce processus, parce qu'évidemment, sa vocation première est d'éviter une pluralité de candidatures au premier tour de la présidentielle. Donc j'espère que l'UDI sera présente dans le processus de la manière dont elle choisira. Je pense qu'au-delà de ça, il y a le peuple de droite et du centre, pour parler là, qui ne sont pas forcément adhérents à un parti politique, qu'il s'agisse des Républicains ou à l'UDI, qui lui aura à cœur de se mobiliser et qui n'attendra pas forcément les consignes de son parti, que ce soit les Républicains ou l'UDI, pour venir participer au choix de celui qui peut gagner. Parce qu'à la fin de la fin, c'est quand même ça le critère. On vient participer au choix de celui qui peut l'emporter lors de l'élection présidentielle. Donc là-dessus, j'ai plutôt un point d'optimisme. Sur la question des investitures après l'élection, c'est, de l'avis général, le candidat désigné qui devra forger sa majorité présidentielle.
Ça, c'est un truc que les socialistes n'ont pas réussi en 2011.
Oui, mais c'est la raison pour laquelle nous avons veillé, nous, et en tirant les leçons de votre expérience, que le vainqueur de la primaire propose une gouvernance pour le parti. Voilà. Ce qui n'a pas pu être fait à gauche et ce qui a emporté des conséquences extrêmement lourdes pour tout le quinquennat, puisqu'on peut dire d'une certaine manière que François Hollande gouverne avec la majorité de Martine Aubry.
Alors justement, on va y revenir dans un instant, parce que ça pose la question effectivement des conséquences de la primaire sur notre vie politique. Vous êtes deux ardents promoteurs de la primaire, mais je voudrais vous faire entendre le professeur de sciences politiques Rémi Lefebvre, qui lui est assez critique sur les primaires et il expose les arguments. C'était sur France Culture le 17 août 2011.
Pour moi, ces primaires liquident l'organisation partisane, puisque quand même une des fonctions d'un parti politique, c'est quand même de sélectionner ses candidats. Et donc, faute d'avoir vraiment reconstruit des liens avec la société, avoir revivifié le militantisme, finalement, le PS en vient à adopter une procédure qui, à mon sens, ne va pas forcément dans le sens de la démocratie. C'est-à-dire que, pour moi, les primaires, c'est avant tout l'acceptation de la personnalisation de la vie politique, de la présidentialisation, et puis le fait, et puis aussi la logique d'opinion, hein, on l'a très bien vu avec Dominique Strauss-Kahn, finalement, et on le verra dans quelques semaines, est-ce que le risque, c'est que les électeurs ne votent pas sur la foi des sondages? Or, on l'avait vu en 2006, hein, les sondages sont toujours très faiblement prédictifs du résultat final. C'est-à-dire, est-ce que les primaires ne consacrent pas la démocratie d'opinion? Est-ce que la démocratie d'opinion va dans le sens de la démocratie?
Thierry Pech, on vient d'entendre Rémi Lefebvre, donc comme vous l'avez vu, très critique, qui reprend quand même un certain nombre de critiques généralement faites sur justement la personnalisation du pouvoir, le triomphe de l'opinion, la campagne permanente. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Est-ce que vous êtes quand même d'accord, même si vous soutenez le système des primaires, ou est-ce que vous êtes en désaccord avec Rémi Lefebvre?
Bon, d'abord, Rémi Lefebvre a fait parmi les travaux les plus intéressants sur la question. Je reconnais vraiment la qualité de ses travaux. Deuxième observation, c'est un enregistrement d'avant les primaires. Rémi Lefebvre a convenu depuis que ça avait été une réussite politique. Alors, il reste des critiques et il continue de porter des critiques auxquelles il faut répondre. Est-ce que les primaires ont liquidé le parti? Est-ce que les primaires ont consacré la démocratie d'opinion? Est-ce que les primaires ont surpersonnalisé la vie politique? C'est principales critiques. Moi, j'ai envie de vous dire, on n'aurait pas fait de primaires si le Parti socialiste avait été capable de trancher la guerre des chefs. Le problème est dans le parti, pas dans les primaires. Les primaires n'ont été nécessaires que parce que les partis n'ont pas su légitimement désigner un candidat et un leader.
Donc c'est un mal inévitable d'une certaine manière.
C'est pas un mal, c'est une procédure qui est née de la faillite de ce parti dans cet exercice de définition du leadership. Deuxièmement, la démocratie d'opinion, elle n'a pas attendu les primaires. Les primaires sont adaptées à cette situation. Mais je veux dire, la personnalisation de la vie politique, les médias d'info en continu, les réseaux sociaux, c'est pas les primaires. C'est ça qui a personnalisé beaucoup la vie politique. Ce qui est difficile, c'est de faire des primaires où les idées aient leur place. Et c'est ça à quoi il va falloir que les Républicains veillent, et les socialistes s'ils en font à nouveau une, c'est que ce soit pas un concours de vaches limousines, comme on l'avait dit à propos de la primaire 2006, où en gros, on défend tous la même chose et on choisit la couleur du cheval.
Alors justement, Gilles Boyer, en parlant de débat d'idées, oui. Comment est-ce que vous allez, à votre avis, garantir chez les Républicains la prégnance d'un débat d'idées sur des positionnements stratégiques dont on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, ils orientent très largement la vie à l'intérieur du parti?
Mais c'est pas mon rôle d'organiser le débat d'idées. Moi, mon rôle, c'est d'organiser la campagne d'un candidat qui, je crois, sur le terrain des idées, n'a pas à rougir. Bon, il faut bien sélectionner. Vous savez, il y a un moment donné où, moi je veux bien qu'on me dise que la primaire c'est terrible, mais enfin un système qui permet à 3 millions de personnes de s'exprimer plutôt qu'à 300 000, j'ai du mal à considérer ça comme une régression démocratique. Ensuite, j'ai envie de vous dire que c'est probablement la primaire le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, hein, comme Churchill l'avait dit, de la démocratie. Je ne connais pas de meilleur système de trancher cette querelle de leadership dont parlait Thierry Pech, dont nous souffrons aussi à droite. Si un leader incontesté avait émergé, nous n'aurions probablement pas eu de primaire. Et c'est ce qui s'est passé au moment où Charles Pasqua a parlé.
1989, ouais. Une autre critique quand même qui a été faite aux primaires et qui n'est pas dans l'archive que nous venons d'entendre, c'est sur le fait que finalement se présenter ou se déclarer en tous les cas candidat aux primaires offre à des personnalités de second ordre, voire de troisième zone, d'avoir un espace médiatique qu'ils n'auraient pas sinon. Je pense par exemple à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, Nadine Morano, députée européenne, qui était un peu tombée dans les oubliettes, elle se présente, elle déclare qu'elle est candidate aux primaires, deux semaines après elle est invitée dans une émission de grande écoute, tout d'un coup c'est un ticket d'entrée sur la scène médiatique pour certaines personnalités.
On pourrait vous dire, et Obama?
Thierry Pech.
Et Obama? Obama n'existait pas avant les primaires.
Et François Hollande était à 3% au tout début du
processus. François Hollande était à 3%. Est-ce que c'est un mal qu'une compétition soit vraiment ouverte aux outsiders? Est-ce que c'est pas au contraire un levier de renouvellement de la vie politique?
Mais est-ce que c'est pas une perversion de la vie politique que chacun puisse se croire un jour candidat à l'élection présidentielle?
Est-ce que c'est une perversion de la vie politique que d'aller conquérir le suffrage de ses concitoyens? Est-ce que c'est une perversion de la vie politique que quelqu'un comme Arnaud Montebourg, qui fait 16 ou 17% aux primaires, trouve un destin politique à la mesure de son résultat parce que les sympathisants de gauche l'ont choisi? Je dis pas ça pour défendre Arnaud Montebourg, je vous donne cet exemple. Est-ce que c'est une perversion de la démocratie que Barack Obama, parce qu'il gagne deux ou trois caucus, devienne tout à coup une option pour la vie politique américaine. Non, c'est une bonne nouvelle.
Et l'argument qui consiste à dire que du coup la primaire crée un climat de campagne quasiment permanente, puisqu'on n'est plus en campagne présidentielle un an avant, mais quasiment trois ans avant, parce qu'il faut déjà préparer la primaire, ça c'est pas une chose négative. Écoutez, Gilles Boyer.
Écoutez, moi je suis au milieu d'une campagne qu'on peut considérer comme longue. Hein, en effet, Alain Juppé s'est déclaré candidat à la primaire le 20 août 2014, c'était il y a un an et demi, et il nous reste 10 mois avant la primaire, et plus et presque un an et demi avant
deux ans et demi de campagne,
la présidentielle.
Quoi.
Bah oui, mais c'est pas de trop pour forger un projet, aller à la rencontre des Français, je veux dire, c'est pas de trop. Après, ne confondons pas ce que les médias font de la campagne et la campagne elle-même. Hein. Moi, je demande pas de sondage. Hein. S'il y avait pas de sondage, j'en commande aucun, j'en commente le moins possible. C'est vous qui les commandez, c'est vous qui les commentez. Bon, et donc par conséquent...
Vous les lisez néanmoins.
Ah mais je les lis, j'y prête beaucoup d'attention.
Il contient des nouvelles qui pourraient vous être agréables. Si vous les avez manquées, je peux vous les donner.
Oh mais vous en faites pas, en ce moment elles ne manquent pas. Je connais aussi leur fragilité. Je sais ce qu'on me dirait si les sondages étaient mauvais aussi. Donc, et la caractéristique des sondages d'ailleurs, c'est que quand ils sont mauvais, on s'inquiète. Et quand ils sont bons, on s'inquiète aussi. Bon, puisque finalement, rien n'est jamais sûr. Ils n'ont pas de valeur prédictive.
J'ai un souvenir, 2002. La gauche perd dans des conditions donc, que vous vous souvenez, qui sont préoccupantes même pour la démocratie française. On entre en campagne un an et demi après la présidentielle. Il n'y a pas de primaire. Ce n'est pas ça le sujet. Dès lors que dans l'opposition, il y a des lignes qui s'affrontent pas seulement sur des personnalités, qui s'affrontent aussi sur des options politiques, hein, qui ne sont pas les mêmes. À l'époque, Dominique Strauss-Kahn, c'est pas Laurent Fabius, c'est Laurent Fabius. Vous vous souvenez, par exemple, sur l'Europe, il y a un clivage manifeste qui va durer dans le parti avec l'épisode de 2005. Donc, bon, on est déjà en campagne, il n'y a pas besoin de primaire pour ça. Une famille politique est dans l'opposition, il y a des désaccords, on cherche à les trancher.
Thierry Pêche et Gilles Boyer, on vous retrouve dans un instant, mais tout de suite place à notre séquence internationale. Nous allons au Mexique aujourd'hui.
France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Alors que l'atelier du pouvoir est consacré aujourd'hui aux primaires et à leur impact sur notre vie démocratique, nous vous proposons d'aller faire un tour au Mexique, un pays qui pratique les primaires, et ce depuis longtemps. Dans ce pays, justement, les primaires sont une tradition politique qui remonte à 1946. Et depuis près de 20 ans, elles sont largement utilisées au Parti de la Révolution démocratique, le PRD, l'un des trois grands partis mexicains et la principale force partisane de gauche, comme moyen de sélection des candidats non seulement à l'élection présidentielle, mais aussi à toutes les fonctions électives. L'organisation de ces primaires soulève cependant de nombreux enjeux qui tiennent autant à leur organisation qu'aux transformations qu'elles occasionnent, tant sur le parti, le PRD, que sur le système politique mexicain dans son ensemble. Alors, pour parler de ces enjeux méconnus, je reçois aujourd'hui Hélène Combes. Bonjour Hélène Combes.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques au CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, et vous êtes spécialiste du système politique mexicain. Vous avez publié en 2011 « Faire partie, trajectoire de gauche au Mexique » aux éditions Cartala. Alors ma première question, elle pose un peu sur justement en quoi consistent ces primaires et de quand datent-elles au Mexique ?
Donc en effet, une loi électorale qui remonte à 1946 crée des élections primaires. Dans un premier temps, le but n'est pas vraiment démocratique. Il s'agit en fait de réguler les luttes de courant au sein du Parti révolutionnaire institutionnel hein, qui a réuni la famille de la Révolution mexicaine et qui est le parti hégémonique. Cette procédure disparaît à la fin des années 50 et ce n'est en fait que dans les années 90, dans un contexte continental qui est assez spécifique, hein, celui des transition démocratique, où beaucoup de partis latino-américains mettent en place des primaires, que, également au Mexique, le Parti de la Révolution démocratique, donc un parti nouvellement créé qui rassemble l'ensemble de la gauche, met en place donc des élections primaires.
Alors il y a trois niveaux de primaires, on l'a compris au PRD, il y a les primaires dans le parti, il y a une primaire pour toutes les autres élections hors l'élection présidentielle et il y a une primaire spéciale pour les élections présidentielles, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Toutes les candidatures sont soumises à la primaire, hein, donc des candidatures du maire jusqu'à l'élection présidentielle. Et il en est de même pour tous les postes de direction au sein du parti. Il faut dire qu'en fait, ces mesures ont été impulsées par des dirigeants qui venaient des mouvements sociaux et donc qui avaient une tradition, on va dire, de démocratie interne et qui ont essayé de l'appliquer à l'échelle du parti.
Alors, on sait qu'il y a des primaires ouvertes depuis 1996 au PRD. On a parlé longuement des enjeux organisationnels dans le cadre des primaires en France. J'imagine qu'ils sont aussi énormes au Mexique.
Il faut d'abord se figurer que le Mexique, c'est un pays qui fait trois fois la France. C'est un pays très montagneux, avec des zones désertiques, avec des zones isolées. Et donc, arriver à déployer des bureaux de vote sur tout le territoire, c'est un véritable défi. Donc, il y a eu entre 5000 et 10 000 bureaux de vote qui ont été déployés lors des élections internes au Mexique. Dès la mise en place de cette procédure, le parti va créer un service électoral qui va être permanent, une bureaucratie électorale qui va prendre en charge ces questions-là et qui va négocier avec tous les candidats absolument tous les points de l'élection jusqu'à l'endroit, bureau de vote par bureau de vote, là où on va placer les urnes, qui sont d'ailleurs placées dans l'espace public, dans les jardins, sur les marchés, pour éviter les locaux partisans.
Alors, quelles ont été les conséquences de ces primaires sur le parti lui-même, le PRD ?
Alors, le point négatif, c'est sans doute la plus forte médiatisation des conflits internes et du coup, une décrédibilisation du caractère démocratique, alors que c'était le but au départ. D'autant plus que c'était dans le contexte de la transition démocratique et le PRD voulait apporter la démocratie au Mexique et d'abord se l'appliquer. Il y a eu aussi des points évidemment positifs qui concernent sans doute plus la question de la désignation des candidats aux législatives ou aux municipales. J'ai pu étudier, démontrer très précisément que cette procédure a permis une plus grande mixité sociale parmi les candidats et finalement parmi les élus en reterritorialisant l'élection et du coup en faisant des élections dans des quartiers populaires avec des élus du coup issus de ces quartiers. Et ce qui est intéressant, c'est que le PRD était lié à des mobilisations de lutte pour le logement ou des mobilisations de vie de quartier qui étaient souvent portées par des femmes. Et donc les primaires ont aussi favorisé la féminisation du parti jusqu'à arriver à 40% des élus et des dirigeants du parti. Je terminerai sur une note négative liée au contexte malheureusement de ce pays. Certains analystes considèrent aujourd'hui que le système des primaires a aussi favorisé l'arrivée à des postes représentatifs de personnes peu fréquentables liées au cartel de la drogue.
Alors en écoutant Hélène Combe et sa description du système des primaires mexicaines, Thierry Pêche, je rappelle que vous êtes directeur général de Terra Nova, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose que soient généralisées les primaires en France, puisque vous en êtes un ardent militant ?
À tous les niveaux d'élection, ouais. Vous voulez dire ? J'en suis pas sûr. Je pense qu'en revanche, il faut réserver cette procédure à des situations où l'arbitrage est nécessaire. Et on avait proposé dans ce rapport, le dernier rapport que nous avons publié sur cette question, que la Commission nationale du Parti socialiste puisse être saisie lorsque des conflits se présentent dans la préparation d'élections pour que les candidats soient désignés de cette façon-là. Et donc, comme recours d'arbitrage, ça me paraît très sain. Systématiser les primaires à tous les niveaux d'élection, ça me paraît plus compliqué.
Gilles Boyer, sur ce point ?
Je crois que les primaires sont une solution politique à un problème politique. Je suis tout à fait en ligne avec ce que dit Thierry Pêche. Et on ne répondra pas par une mesure juridique à des problèmes qui sont de nature politique. Il y a eu, au moment des élections municipales, au sein des Républicains, des communes, où on n'arrivait pas à se mettre d'accord entre deux têtes de liste. Et bien, ma foi, les militants ont voté et ils ont désigné leur tête de liste. Voilà. Donc ça permet de résoudre les querelles et c'est d'éviter de se présenter divisé au premier tour d'une élection.
Une ordalie démocratique.
Alors, il y a une question qui est posée. C'est celle de quoi faire quand un président est en exercice. Est-ce qu'il faut organiser des primaires ? Est-ce qu'un ancien président aussi doit se soumettre au système des primaires. Je vous propose d'écouter Henri Guénaud, c'était il y a exactement 2 ans sur Europe 1. Il répondait à Jean-Pierre Elkabbach le 21 janvier 2016.
Là, je vous exprime ma désapprobation totale et même ma réprobation parce qu'un ancien président de la République ne peut pas retourner s'enfermer dans le noyau dur de son camp pour ensuite revenir vers tous les électeurs. C'est inconcevable. Ça n'est pas possible. Si Nicolas Sarkozy décidait de revenir, il se présenterait devant les Français. Après, l'UMP fera ce qu'elle souhaite faire pour savoir quel candidat elle soutient. Mais je vous le dis, il serait absurde du point de vue des institutions de la Ve République et de la dignité de l'institution présidentielle que Nicolas Sarkozy se présente à des primaires.
Alors Gilles Boyer et Thierry Pêche, cette question, elle s'adresse un peu à vous deux et à différents candidats, parce que là, Henri Guénaud nous parle de Nicolas Sarkozy, mais on pourrait dire la même chose, maintenant 2 ans plus tard, de François Hollande. Est-il imaginable qu'un président, alors ancien président dans le cas de Nicolas Sarkozy, président en exercice dans le cas de François Hollande, puisse se représenter devant les candidats de son camp, refaire campagne, repartir à la bataille pour essayer de se représenter ?
Si je peux me permettre, la situation entre un président sortant qui est en fonction et un président qui a été battu lors de l'élection présidente n'est pas tout à fait comparable. Nous-mêmes, nous avons décidé en 2010, 2011, 2012 qu'il n'y aurait pas de primaire. Ça s'est fait très facilement. Et Nicolas Sarkozy, président sortant, avait, par le fait des institutions de la Ve République, et ça se vérifiera pour François Hollande aussi, j'en fais le pronostic, une forme de prééminence. D'abord parce qu'il a le timing du calendrier.
Thierry Pêche, on n'a pas beaucoup entendu la Fondation Terra Nova ces derniers jours pour soutenir l'appel qui a été lancé dans Libération par quelques intellectuels et élus en faveur d'une primaire de la gauche. Vous devriez pourtant vous réjouir, une nouvelle primaire.
J'ai même refusé de la signer. Et j'ai refusé avec des arguments. Mais ça n'avait rien à voir avec le calendrier du président de la République, parce qu'on pourrait penser, les questions s'enchaînant, que ça a à voir avec ça. Sur ce point, le calendrier du président de la République, il faut protéger la fonction. Un président de la République sortant, qui entre dans la liste d'une primaire 6 ou 8 mois avant l'élection présidentielle, c'est la fonction présidentielle qui est atteinte. De la même façon, d'ailleurs, s'il n'y entre pas et s'il dit qu'il n'est pas candidat, on ne l'écoutera plus. Donc il faut penser à ça tout de même. La France est représentée dans des sommets internationaux par cette personne. Pourquoi j'ai pas signé maintenant l'appel à la primaire Piketty, Cagé, etc. Parce que je pense qu'elle souffre d'une contradiction qui me la rend étrangère, si vous voulez. La contradiction dont elle souffre, c'est qu'elle ressemble un peu à un tract anti-Hollande, à bien des égards, quand on lit le manifeste, et qu'en même temps elle veut rassembler. Donc je pense qu'il faut choisir l'objectif qu'on poursuit. Si on veut rassembler, on ne peut pas entrer dans la compétition, proposer la compétition de cette façon-là. Si on veut critiquer la politique de François Hollande, ce qui est tout à fait autorisé et légitime, si on a des désaccords profonds avec lui, il ne faut pas dire qu'on va rassembler en l'invitant dans une primaire. Deuxième contradiction, c'est un outil adapté à des institutions qui personnalisent la vie politique, notamment à cause de la présidentielle. Dire qu'on va organiser une primaire anti-plébiscitaire, c'est presque un oxymore, si vous voulez. Je pense qu'il faut qu'il y ait des idées dans le débat sur la primaire, mais la primaire ne peut pas être le lieu, la fabrique d'un programme, par exemple. C'est d'abord la sélection d'un leader. Ensuite, c'est un débat d'idées, mais c'est pas une fabrique. Le programme de François Hollande, il a été connu après. Si Alain Juppé gagne la primaire des Républicains, son programme sera connu probablement après. Bon, donc on peut pas tout demander à la primaire.
Donc vous faites également le pari qu'il n'y aura pas de primaire à gauche cette fois.
Non, je pense que, par exemple, c'est d'ailleurs, si vous vous souvenez du rapport que vous avez cité, on suggérait que François Hollande prenne l'initiative d'une primaire tardive.
Et vous pensez qu'il le fera ?
Je ne suis pas dans sa tête.
Merci.
Langue de bois.
Non, je ne suis pas Madame Soleil, je suis désolé.
Merci Hélène Combes, Thierry Pêche et Gilles Boyer pour Merci. Ce débat sur les primaires. Avant de nous quitter, Vincent, notre conseil de lecture, le vôtre, la politique en continu aux éditions Les Petits Matins.
Oui Thomas, aujourd'hui j'ai choisi de m'intéresser à un phénomène majeur des médias contemporains, à la télévision en continu et en particulier à BFM TV à travers ce petit livre passionnant, très pédagogique de Thierry Devard, chercheur et enseignant au CELSA, l'école de journalistes de l'université de Paris 2, est paru aux éditions Les Petits Matins, justement, du CELSA. Par BFMisation de la vie politique, hein, c'est le sous-titre d'ailleurs du livre qui dit « Est-ce qu'on va vers une BFMisation de la communication ?» Eh bien, par cette BFMisation, l'auteur entend une accusation, celle de désagrégation du journalisme d'investigation par l'info en continu, caractérisée par le règne de la petite phrase, la dissolution du débat de fond ou la quête effrénée de l'exclusivité. L'auteur, en fait, retrace l'histoire d'une chaîne à part BFM, créée par Alain Veil en 2005 avec le lancement de la TNT, propriété de Next Radio TV, qui, avec 2% d'audience seulement, mais qui peut monter à 13%, par exemple, lors de la cavale des frères Kouachi, a réussi à se positionner en leader de l'info en continu. Avec ses 20 heures de direct par jour, 86% de journaux et de magazines d'information, son culte de l'instantanéisme et de l'immersion, BFM constitue une véritable rupture dans la culture du rendez-vous politique-médiatique, nous dit Devard. Il décrit le marketing de l'info qui se nourrit de slogans, de formules, cette obsession de l'événement dont le nec plus ultra est le breaking news, intraduisible en français, ou la création d'un événement monstre avec les attentats de Paris en janvier dernier qui ont fait l'objet d'un véritable storytelling sur la chaîne d'info en continu. Il souligne bien sûr les critiques souvent justifiées de la standardisation de l'info, sa superficialité ou son manque de recul, tout en dénonçant la banalisation de la politique perdue au milieu d'un flot d'informations. Sur BFM, l'omniprésence de la politique et sa désacralisation vont de pair. Quoi qu'on pense de ce nouveau média qui dit que des règles aux médias classiques, comprendre BFM est essentiel pour analyser l'évolution de l'information de la politique dans les médias. Et à travers cette réflexion équilibrée qui analyse plus qu'elle ne dénonce, Thierry Devars réussit à nous immerger dans le monde du refus de la langue de bois, de l'infotainment, de la réactivité, de l'agressivité, de l'indifférence qui marque l'information en continu sur BFM TV. Il nous propose finalement en creux une réflexion sur la politique à la télévision en lien avec la distance progressive des citoyens vis-à-vis de cette dernière, parce que trop souvent, l'extension du domaine politique de la télévision coïncide avec un écœurement progressif vis-à-vis de cette dernière qui n'a jamais ressenti un tel sentiment.
Merci, merci Vincent, merci à nos invités. C'était donc l'Atelier du Pouvoir, une émission de Thomas Vider et Vincent Martini, préparée par Cyril Baer, réalisation d'Oria Zénine, à la technique aujourd'hui Philippe Bredin. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, nous réécouter en podcast, nous suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, @AtelierPouvoir. Et pour ce qui nous concerne, Vincent, nous vous retrouvons la semaine prochaine à 12h50 pour parler de quoi ?
Nous nous poserons la question, les politiques sont-ils sincères ?
Vaste sujet. À la semaine prochaine pour un atelier du pouvoir, donc consacré à la sincérité en politique. Dans un instant, c'est Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Bon week-end à tous sur France Culture.